Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, nouvelle manifestation à Hong Kong, manifestation interdite par l'exécutif, reportage d'Angélique Forget. Rassemblement à venir à Moscou, rassemblement autorisé et chronométré. Nous serons en ligne dans un instant avec Jean-Didier Revoin. La sécheresse en France qui sévit sur la quasi-totalité du pays et qui, dans le Tarn, dans la vallée du Tescou, repose la question du barrage de Sivens. Et puis nous refermerons cette édition en prenant acte du virage écologique pris par les organisateurs du Tiget à Budapest. 500 000 festivaliers et 4 000 tonnes de déchets à gérer. À l'exécutif de Hong Kong qui ne cesse de mettre en garde les détracteurs du pouvoir central chinois contre un effondrement économique de cette région administrative spéciale. Selon le lexique communiste, les manifestants en pied d'œuvre depuis des semaines répondent ce samedi en défilant, quelquefois en famille, avec en main un abécédaire qui explique aux enfants le mouvement de protestation qui entre dans son troisième mois. Angélique Forget est à Hong Kong.
Derrière son masque opaque, qui lui sert surtout à cacher aux forces de police son identité, Crystal, 35 ans, regarde passer le cortège. Elle le sait, cette manifestation n'a pas été autorisée, mais cela n'a pas entamé ses motivations. Pour son 10e week-end consécutif, elle devait descendre dans la rue.
Tant que la chef de l'exécutif, Carrie Lam, ne répondra pas à nos demandes, je continuerai à être dans la rue. De toute façon, je n'ai pas la tête à faire autre chose, comme du shopping. Je suis fatiguée mentalement et physiquement, mais je continuerai à défendre la démocratie.
Quelques mètres plus loin, un centre commercial s'est transformé en base arrière pour manifestants. L'air y est climatisé. C'est ici que So, une jeune étudiante en sociologie, attend de recevoir sur sa messagerie sécurisée Telegram les instructions pour la suite des opérations.
Comme nous ne sommes pas les manifestants qui allons en première ligne, nous ne savons pas encore très bien ce qu'on va faire après. On est surtout là pour soutenir ceux qui sont à l'avant. Quel que soit ce qu'ils prévoient après, nous les suivrons à l'arrière, car eux ont le courage d'aller au front.
Depuis le début de la contestation, plus de 500 personnes ont été arrêtées, une quarantaine inculpées pour émeute, un délit passible de 10 ans de prison.
Angélique Forget à Hong Kong depuis hier et pour 3 jours. Des milliers de personnes occupent l'aéroport de Hong Kong. Le mouvement s'installe dans la durée et il en a les moyens. Selon Pierre Picard, docteur en géopolitique et spécialiste de la Chine, il répond aux questions de Camille Revel.
On est sur une action très organisée. Alors, à la fois sur le plan intérieur, c'est-à-dire sur le plan hongkongais, mais également avec des appuis extérieurs. N'oublions pas que la région administrative de Hong Kong, comme celle de Macao, sont revenues très récemment dans le giron de la Chine continentale, après une histoire un peu mouvementée et puis les guerres de l'opium il y a plus d'un siècle. Et aujourd'hui, il y a des tentatives, je dirais, à la fois intérieures et extérieures de séparatisme, en tout cas de semer le trouble et le chaos.
Aujourd'hui, le pouvoir central chinois soutient totalement l'exécutif de Hong Kong.
Alors, il faut savoir que le pouvoir de Hong Kong a joui de grandes libertés sur le plan législatif, économique et financier. Même si Hong Kong a tendance, je dirais, économiquement à peser beaucoup moins lourd dans cette grande Chine qui comprend de nombreuses zones territoriales différentes. Mais oui, globalement, la Chine ne cédera jamais sur le plan de sa géographie et sur le plan de ses territoires, ne cédera jamais sur son appui qu'elle donne à toutes ses régions, y compris les régions autonomes et puis les territoires spéciaux.
Pierre Picard, géopoliticien et spécialiste de la Chine. Quand le Kremlin condescend opportunément à autoriser un mouvement de contestation, il l'encadre, c'est rien de le dire. Le rassemblement de cet après-midi à Moscou, cantonné à l'avenue Sakharov, ne doit durer que 2 heures. 4e week-end consécutif de mobilisation pour les opposants au régime de Vladimir Poutine, privé d'élections locales, et loin d'être démotivé par les milliers d'arrestations et l'emprisonnement de la plupart de leurs leaders. Comme convenu, nous sommes en ligne de Moscou avec Jean-Didier Revoin. Bonjour Jean-Didier.
Bonjour.
Quels sont, à vrai dire, les enjeux de ce rassemblement?
Eh bien écoutez, ici à Moscou, l'enjeu est vraiment pour l'opposition d'arriver à mobiliser ses partisans, de voir dans quelle mesure ils sont prêts à défiler et à réclamer des réformes, Il faut dire que jusqu'à présent, ces deux dernières semaines, les manifestations étaient interdites. Et cette manifestation autorisée, qui peut compter jusqu'à 100 000 personnes, eh bien, pourrait permettre à ceux qui n'osent pas ou qui redoutent de se faire arrêter, eh bien, de descendre aujourd'hui dans la rue. Alors, les opposants ont des partisans, hein, de nombreux youtubeurs, des rappeurs, des personnalités du monde du spectacle ont annoncé sur les réseaux sociaux, eh bien, qu'ils se rendraient à la manifestation, histoire de rameuter le maximum de personnes possibles pour ce rassemblement. Et puis, du côté des autorités, eh bien, l'enjeu est simplement de montrer au pouvoir, au Kremlin, eh bien, qu'elles sont capables de gérer ce rassemblement et d'éviter tout débordement. Alors, on est à peu près à 20 minutes du début du rassemblement annoncé. Pour l'instant, je peux vous dire que des milliers de moscovites défilent sur l'avenue Sakharov. Ils se plient avec un certain flegme, mais ils ont l'habitude au contrôle de sécurité en passant sous des portiques avant de pouvoir accéder à la place, proprement dit. Et tout le monde attend ici le début de la manifestation qui devrait commencer d'ici une vingtaine de minutes.
Merci à vous, Jean-Didier Revoin, en direct de Moscou. L'agence nucléaire russe révise à la hausse le bilan de l'explosion survenue avant-hier dans une base d'essai de missiles dans le Grand Nord, dans la région d'Arkhangelsk. 5 morts selon Rosatom et non pas 2 morts et 6 blessés, données livrées hier par les autorités russes qui ont été contraintes de fermer à la navigation une partie de la baie de Dvina sur la mer Blanche. Les habitants de la région se ruent sur les comprimés d'iode pour résister à d'éventuelles radiations. En Tanzanie, à 200 km à l'ouest de Dar es Salaam, un accident de la circulation tourne au drame. Un camion-citerne s'est renversé sur la chaussée et des conducteurs de taxi-moto se sont rués pour récupérer du carburant. Le camion a explosé, au moins 60 morts. 4 Palestiniens tués au sud de la bande de Gaza, selon l'armée israélienne. Ils venaient de franchir la frontière avec Israël, armés de fusils et de grenades. La sécheresse continue d'inquiéter un peu partout en France. Dans le Tarn, l'un des 39 départements en situation de crise. Dans le Tarn, dans la vallée du Tescou, elle ravive même les tensions entre les pros et les anti-barrages de Sivens. Le projet était abandonné il y a 4 ans après la mort de Rémi Fraisse lors d'une manifestation sur la ZAD. Les agriculteurs réclament une solution pour stocker l'eau l'hiver et être alimentés l'été. Une version réduite du barrage initial serait soumise au vote à la rentrée. Emeline Ferry.
Chaque été, c'est la même chose, constate Jean-Louis Marty, maraîcher bio, au milieu de son champ de pommes de terre.
Voilà, vous voyez les crevasses, hein. Regardez, c'est exceptionnel, vous avez à peu près des patates non pourvues d'eau qui sont de la grosseur à peu près d'une cacahuète, quoi.
Le Tescou est asséché, il faut trouver une solution. Élus, agriculteurs et écologistes se retrouvent régulièrement pour discuter. Marilyn Lerme, maire de l'Île-sur-Tarn, est la coprésidente de ce projet de territoire.
Il faut qu'on prenne une décision, il faut qu'on ramène de l'eau dans la vallée pour le milieu, pour le développement agroécologique. Et on se doit de répondre donc au désarroi des agriculteurs de cette vallée qui aujourd'hui n'ont plus d'eau.
Plusieurs consensus ont été trouvés, reste un point qui bloque. Comment amener de l'eau dans la vallée? L'idée d'une version réduite du barrage de Sivens s'est étudiée. Une aberration pour les associations de défense de l'environnement. Alors Christian Pince, opposant de longue date, a proposé une alternative lors de la dernière réunion.
On prolonge un réseau d'irrigation existant qui pompe de l'eau dans le Tarn et qui serait prolongé le long du Tescou. Il faut accompagner par des mesures d'économie d'eau et de changement de pratiques agricoles.
Tous attendent donc le résultat du vote en septembre, avec la crainte d'une nouvelle ZAD.
D'autres pratiques à Budapest, au festival artistique Sziget, sur une île située au milieu du Danube. 27e édition du plus grand festival d'Europe, 500 000 festivaliers qui piétinent l'herbe pendant une semaine et qui produisent 4000 mètres cubes de déchets. Les organisateurs ont décidé, pardonnez-moi, de prendre un virage écologique. C'est un reportage de Florence Labrouillère.
Le Sziget se met au vert. Pour réduire son empreinte carbone, le festival s'attaque à la première source de pollution, les tentes abandonnées sur place par les festivaliers. Désormais, elles ne sont plus jetées, mais données à des associations. Autre innovation, un camping écolo avec des douches qui fonctionnent à l'énergie solaire et des tentes en carton. Venu de Lyon, Quentin a tenté l'expérience.
Ça reste assez frais le matin, contrairement aux tentes en toile où on surchauffe vite. Sinon, il n'y a pas de fenêtre. Et du coup, il n'y a pas de petites moustiquaires comme dans les tentes. Donc, on est vite envahi de fourmis et de petites bêtes la nuit. C'est très éco-camping, on est en communion avec la nature.
Sziget Festival!
Au Siget, on ne sert plus à boire dans des gobelets jetables, mais réutilisables. Résultat, moins de déchets et le site est plus propre qu'avant, constate Quentin.
Il y a 3 ans, j'étais là et c'était que des gobelets en plastique. Le sol était jonché de déchets et une armée de bénévoles ou alors de gens très peu payés qui passaient 2 heures, 3 heures à ramasser nos déchets. Ça fait un peu culpabiliser quand même. On passe un peu pour les Européens décadents qui viennent mettre le bazar.
Anne-Françoise vient de Belgique et elle s'avoue séduite par ce virage écologique.
Ils ont beaucoup d'initiatives déjà au niveau des stands de nourriture où ils ont très peu de choses en plastique, c'est soit en bois, soit en carton. Et même au niveau des pailles, c'est des pailles en carton. Il y a quand même pas mal de choses mises en place ici.
Objectif du Siget, recycler plus de 50% des déchets produits pendant le festival.
Quelques mots de météo pour refermer cette édition. Quelques averses encore sur le centre-est du pays et près de la Manche. Partout ailleurs, du soleil. Édition préparée avec M. Le Chili. À la technique, Pierrick Monsigny.